réalisation et la mise en œuvre.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 14 juin 2024. Accord historique en Afrique du Sud sur un gouvernement d'union nationale.
Ramaphosa essaye de mettre ensemble l'ensemble des forces politiques dans l'espoir de juguler la crise qui frappe ce pays, crise économique, crise mais aussi évidemment crise politique.
Achille Mbembe de l'université de Witwatersrand à Johannesburg nous en dira plus dans la partie magazine. Au Niger, la justice lève l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum. La justice béninoise place en détention 3 Nigériens. En Mauritanie, lancement de la campagne pour la présidentielle du 29 juin avec 7 candidats en lice. Le G7 cible la Chine pour son soutien à Moscou et sa politique commerciale. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. En Afrique du Sud, l'ANC accepte de former un gouvernement d'unité nationale avec son principal rival, l'Alliance démocratique. Une telle cohabitation était impensable jusqu'aux dernières élections législatives où le parti au pouvoir a perdu la majorité absolue. Le nouveau parlement s'est réuni aujourd'hui pour élire le chef de l'État, Alexandrine Ollongnon.
Le nouveau parlement est réuni au Cap pour la première fois depuis les élections du 29 mai. Le président Cyril Ramaphosa, 71 ans, ancien syndicaliste devenu homme d'affaires richissime, devrait être reconduit à la tête de l'État grâce à l'alliance de l'ANC avec une partie de l'opposition, dont l'Alliance démocratique et deux autres petits partis, Inkatha, socialement conservateur, et l'Alliance patriotique de droite. Le chef de l'Alliance démocratique, John Steenhuisen, a déclaré que l'accord fait de l'Afrique du Sud un pays meilleur. Deux semaines de négociations intenses ont permis d'aboutir à ce résultat. Les combattants pour la liberté économique de Julius Malema et le nouveau parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma ne sont pas membres de cette coalition inédite qui va former le gouvernement. C'est un changement radical après 30 ans de règne sans partage de l'ANC sur la scène politique. Les électeurs l'ont sanctionné pour son bilan, marqué par un taux de chômage élevé, une économie stagnante et des pannes d'électricité à répétition.
La Cour d'État du Niger a levé l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un possible procès pour celui qui a été renversé par un coup d'État militaire en juillet 2023. Dili Diko.
La Cour ordonne la levée de l'immunité de Mohamed Bazoum, a déclaré Abdoudan Galadima, président de la plus haute juridiction du Niger, créée en novembre 2023 par le régime militaire. Les autorités de Niamey accusent le président renversé de complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. À l'issue de l'audience de vendredi, Maître Ould Salem Mohamed, l'un des avocats de Mohamed Bazoum, a déclaré prendre acte de la décision. Il est reproché à M. Bazoum d'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie par une intervention armée lors du coup d'État du 26 juillet 2023. Il lui est également reproché d'avoir affirmé avoir libéré des terroristes et de les avoir reçus à la présidence. Mohamed Bazoum est détenu depuis le coup d'État avec son épouse. En décembre, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné sa libération, mais sa demande est restée lettre morte et en janvier, le Niger a quitté l'organisation sous-régionale.
Trois des cinq Nigériens arrêtés la semaine dernière au Bénin, au port de Semepoji, ont été placés en détention par la justice béninoise dans un contexte de brouille entre les deux pays. Le point avec Rosine Monizero.
Les trois Nigériens mis en cause, dont la directrice générale adjointe de la société pétrolière WAPCO Niger, ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été présentés jeudi au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Leur procès s'ouvrira lundi 17 juin. Deux d'entre eux ont été remis en liberté. Les relations entre les deux voisins, tendues depuis le coup d'État militaire de juillet 2023 à Niamey, se sont détériorées ces dernières semaines. Le principal point d'achoppement concerne le refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin. Le bras de fer s'articule sur la question du pétrole nigérien acheminé depuis le nord-est nigérien via un oléoduc géant au port béninois de Sémé-Podji. Des efforts de médiation de la société chinoise WAPCO qui gère l'oléoduc n'ont jamais abouti. Parmi les 5 ressortissants nigériens, les autorités béninoises estiment qu'au moins 2 d'entre eux ne sont pas des employés de WAPCO Niger, mais des agents nigériens entrés sur le site avec de faux badges. Mais selon Niamey, cette équipe était en mission au Bénin pour contrôler le chargement de pétrole.
En Côte d'Ivoire, 5 personnes sont mortes dans des éboulements ou en raison de la montée des eaux après de très fortes pluies hier après-midi à Abidjan. La plupart des communes de la capitale économique ivoirienne sont concernées et de nombreuses routes ont été coupées par la montée des eaux. En 24 heures, il est tombé 214 mm de pluie sur la commune de Yopougon et 205 à Cocody, selon l'agence météorologique ivoirienne Sodexa, soit un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des 3 mois de la saison des pluies, mai-juin-juillet en une seule journée. La justice tunisienne a condamné à de lourdes peines de prison 5 personnes accusées d'avoir organisé une opération d'immigration clandestine qui s'était terminée par le naufrage et la disparition des 18 migrants tunisiens en 2022. Une embarcation de fortune avait coulé dans la nuit du 20 au 21 septembre 2022 après être partie de Zarzis dans le sud-ouest, dans le sud-est de la Tunisie avec à son bord 18 candidats à l'immigration, tous tunisiens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du G7 réunis en sommet dans le sud de l'Italie ont critiqué la Chine, accusée de fausser les règles du commerce mondial et de soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La participation du pape François au G7 est aussi une première pour un souverain pontife. Le point avec Michel Joseph.
Les chefs d'État et de gouvernement du G7 réunis en sommet à Borgo Egnazia, près de Bari, dans le sud de l'Italie, s'inquiète du risque posé aux marchés mondiaux par la hausse des exportations chinoises de produits à bas prix. Le sommet a aussi évoqué l'aide chinoise à l'effort de guerre russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu hier avec une promesse de 50 milliards de dollars tirés des revenus des avoirs russes gelés. Le G7 doit accueillir aujourd'hui d'autres chefs d'État et de gouvernement non membres, dont l'Indien Narendra Modi. Le pape François, dans son discours, a appelé à l'interdiction des armes autonomes létales. Aucune machine ne devrait jamais choisir d'ôter la vie à un être humain, a insisté le pape de 87 ans. Il a prévenu que des robots tueurs, drones, torpilles et toutes sortes d'armes pourraient être transformés en systèmes autonomes et régis par l'intelligence artificielle. Le sommet a par ailleurs été marqué par quelques frictions entre la France, les États-Unis et l'Italie, pays hôte, qui s'est opposé à une référence au droit à l'avortement avant la déclaration finale attendue demain.
Le président russe Vladimir Poutine a de facto fixé ce vendredi une capitulation de l'Ukraine comme condition pour des pourparlers. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky rejetant aussitôt un ultimatum à la Hitler à la veille d'un sommet en Suisse consacré aux moyens d'arriver à la paix et dont la Russie est exclue. L'Ukraine, les États-Unis et l'OTAN ont aussi immédiatement rejeté ces conditions du maître du Kremlin, de même que le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, dont le pays est le principal soutien militaire et financier de Kiev, et qui a jugé que M. Poutine n'était pas en position de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour parvenir à la paix. La Cour suprême des États-Unis a infligé aujourd'hui un revers aux partisans d'un contrôle accru des armes à feu en annulant l'interdiction des bump stocks, c'est-à-dire un appareil démultipliant la cadence de tir des fusils semi-automatiques, les transformant de facto en mitraillettes. Les appels se sont aussitôt multipliés pour une intervention du Congrès afin de modifier la loi. Et puis, en Grande-Bretagne, la princesse Kate a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'elle ferait demain samedi sa première apparition officielle depuis des mois, se réjouissant des bons progrès de son traitement contre le cancer. Mon traitement est en cours et continuera encore pendant plusieurs mois, y affirme l'épouse du prince héritier William, qui n'avait plus été vue en public depuis Noël, disant se réjouir d'assister à la parade pour l'anniversaire du roi ce week-end à Londres. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, l'entreprise agroalimentaire Cashew Coast, spécialisée dans la transformation de la noix de cajou, a signé un accord de 9,7 millions de dollars avec l'investisseur agro-industriel Agdefco, basé au Royaume-Uni. Il est notamment prévu la construction de nouveaux entrepôts de stockage et la mise en œuvre de programmes d'amélioration de productivité. Au Ghana, Asante Gold a annoncé hier l'achèvement de deux déviations de l'autoroute Bibiani-Guasso. En détournant le trafic, la compagnie minière peut accéder à un gisement d'or sur une section de l'autoroute près de la mine de Bibiani. Asante estime pouvoir augmenter sa production mensuelle d'or de 20 000 onces en 8 mois. Elle vise une production annuelle supérieure à 250 000 onces. Le Kenya envisage de multiplier par 10 le capital minimum requis pour les banques locales afin de le porter à près de 78 millions de dollars, a annoncé hier le ministre des Finances Njuguna Ndungu lors d'un discours sur le budget de l'État à l'Assemblée nationale. L'objectif est de les protéger contre les risques et de soutenir leur plan d'expansion régionale.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Euro 2024, l'ambiance monte à Munich avant le match d'ouverture Allemagne-Écosse.
La fièvre de l'Euro 2024 s'est emparée ce vendredi des rues de Munich à la mi-journée, remplie de supporters écossais à quelques heures du match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse pour un tournoi continental disputé dans un contexte politique et géopolitique tendu. L'Euro 2024 doit rassembler les Européens autour du ballon rond, et ce, au moment où la guerre fait toujours rage sur le continent. La sélection ukrainienne fait d'ailleurs partie des 24 qui rêvent de succéder à la nationale italienne, lauréate en 2021. Après le match d'ouverture, le premier choc du tournoi est prévu dès demain samedi en début de soirée à Berlin entre l'Espagne, championne d'Europe en 2008 et 2012, et la Croatie de l'inuissable Luka Modric, vice-championne du monde en 2018 et encore demi-finaliste fin 2022 au Qatar. Deux sérieux outsiders, tout comme le tenant du titre italien et le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'Allemagne fait partie des favoris du tournoi avec la France de Kylian Mbappé, vice-championne du monde en décembre 2022, et l'Angleterre de Harry Kane.
Toujours Euro 2024, des billets légers au match à risque Serbie-Angleterre.
Pour le match considéré à risque entre l'Angleterre et la Serbie, prévu dimanche au premier tour de l'Euro 2024, les supporters des deux équipes ne pourront acheter que de la bière à teneur réduite en alcool, a annoncé la police ce vendredi. Une bière légère à 2,5% sera servie dans le stade, les supporters étant limités à deux verres à la fois, a indiqué une porte-parole de la police dans l'ouest de l'Allemagne. Les bières habituelles, dont le volume d'alcool se situe entre 4 et 5 degrés, ont été bannis de la vente, une mesure prise pour des raisons de sécurité, a précisé la porte-parole, ajoutant que les Britanniques y sont habitués. Les autorités allemandes se sont préparées à faire face à d'éventuels hooligans lors du tournoi.
Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF, Égypte 2024, le programme des éliminatoires est connu.
Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF, Égypte 2024, ont été confirmées le 13 juin. 14 pays s'affronteront en deux phases, aller et retour, pour déterminer les 7 équipes qui rejoindront l'Égypte cet été. La première manche se déroulera du 19 au 21 juillet et la seconde du 26 au 28 juillet. Le Sénégal, le champion en titre, affrontera la Guinée, tandis que l'Angola jouera contre le Maroc, double médaille de bronze. D'autres matchs notables incluent Ghana contre Côte d'Ivoire et Burundi contre Malawi. Les Seychelles, hôtes de la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer, joueront contre le Mozambique.
Page de sport VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Mauritanie, la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin 2024 a officiellement débuté jeudi à minuit. Le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a lancé sa campagne dans la capitale Nouakchott en renouvelant son appel à la continuité. Face à lui, 6 candidats de l'opposition qui prônent le changement. C'est une correspondance de Mohamed Diop.
À Nouakchott, sous les applaudissements de ses partisans, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale pour cette présidentielle. Son message est de poursuivre les réformes et les projets entrepris durant son premier mandat.
Nous avons pu assurer la sécurité et la stabilité et créer une atmosphère de calme et d'harmonie que nous jugeons indispensable pour renforcer notre unité nationale, notre cohésion sociale et consolider notre système démocratique.
Face à lui, 6 candidats de l'opposition appellent au changement. Parmi eux, El Aïd Mohamed Mbarek, avocat et député récemment élu, représentant la communauté aratine, les anciens esclaves de Mauritanie.
Le peuple aspire au changement. Le peuple craint pour l'avenir de ce pays. Malgré tout, le peuple s'est patienté en attendant de voir venir ceux qui vont lui garantir une Mauritanie où règne la diversité culturelle, la compréhension mutuelle et la tolérance. Une Mauritanie qui donnera espoir à ses enfants, leur permettra d'apprendre dans les mêmes écoles, de parler la même langue et de jouir des mêmes droits.
Parmi les voix de l'opposition qui veulent du changement, Hamadi Sidi El Mokhtar, leader du parti islamiste Tawassul, promet une rupture radicale avec un retour à la charia, la loi islamique, s'il est élu.
Le projet de Tawassul a pour but d'ancrer l'identité islamique et de ramener la loi de Dieu sur la terre de Dieu. Je vous le garantis, si nous prenons le pouvoir, nous appliquerons la charia.
Les autres candidats en lice sont Bamamadou Bokar, scientifique, Biramda Abeid, militant des droits de l'homme, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2019, Mohamed Lamine El Mourtadi El Wafi, économiste, et Soumaré Atouman, médecin neurologue. Chacun porte une vision différente pour l'avenir du pays, mais tous s'opposent au régime en place et appellent au changement. Les Mauritaniens auront 2 semaines de campagne pour se faire une opinion. Plus de 1,9 million d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, selon la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Le Parlement sud-africain issu des élections de fin mai se réunit ce vendredi pour choisir le président avant la formation d'un gouvernement d'unité nationale inédit qui penche vers le centre impliquant l'ANC, le parti nationaliste Zulu Inkatha et l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition de centre libéral. Cyril Ramaphosa, âgé de 71 ans, devrait être reconduit à la présidence. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Pretoria, Achille Mbembe, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand.
Je dirais que cet accord aura permis d'éviter une crise institutionnelle sérieuse dans la mesure où, effectivement, l'ANC n'a pas obtenu de majorité lors des dernières élections. L'accord est également typique un peu de l'approche sud-africaine forgée au moment des négociations, au sortir de l'apartheid. Vous vous souvenez qu'à l'époque, Nelson Mandela avait mis en place, lui aussi, un gouvernement d'union nationale. Et donc Ramaphosa fait exactement la même chose. Il essaye de mettre ensemble l'ensemble des forces politiques sud-africaines dans l'espoir de juguler la crise dans tous les sens du terme qui frappe ce pays, crise économique, crise identitaire, mais aussi évidemment crise politique. Et donc cet accord est un élément extrêmement positif des dynamiques en cours ici.
Est-ce que c'est un accord qui va tenir jusqu'au bout?
Mais il reste à voir, parce que quand même, il y a d'énormes différences entre les différents partis, à commencer par les différences entre l'ANC et le Democratic Alliance, qui pour l'essentiel représente les intérêts de la minorité blanche. Il y a des désaccords, par exemple, en matière de stratégie de transformation sociale. Il y a des désaccords du point de vue de la politique diplomatique de l'Afrique du Sud, de son alignement en particulier derrière des puissances comme la Chine, sa position, par exemple, en rapport avec la guerre en Ukraine. Ces différences vont devoir être négociées. Quant à savoir si tout cela tiendra la route jusqu'au bout de la législature, eh bien, on ne perd rien à attendre.
Mais Ramaphosa n'a pas tout le soutien de son parti pour cet accord. Comment va-t-il gérer les différends au sein de son propre camp?
Mais le choix a été entre une coalition avec le parti de Malema et le parti de Zuma, ou alors une alliance de raison, je dirais, avec le DIE et les autres petits partis. Et donc Ramaphosa, en particulier, a fait le choix de s'allier, disons, aux forces libérales. Ceci est bon pour l'Afrique du Sud, pour ses intérêts économiques en particulier. L'alliance avec les partis féodalistes de Zuma et le parti radical de Malema aurait ouvert la voie à une période économique et financière tout à fait agitée. Et donc le choix a été fait d'écarter cette option.
Achille Mbembe, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand. Le président Joe Biden et les dirigeants du G7 sont réunis depuis hier dans le sud de l'Italie. La rencontre s'est poursuivie aujourd'hui et doit se terminer demain par une déclaration finale. Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, fait le point de la première journée à Borgo Egnazia, où se tient le sommet. Le récit est de Rosine Monizero.
Les dirigeants du G7 ont conclu leur première journée par une démonstration de parachutisme après les discussions sur les défis mondiaux. L'Ukraine a fait l'objet d'une attention particulière. Le président Joe Biden a signé un accord bilatéral de sécurité avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain Joe Biden.
Les mesures que nous allons prendre pour nous assurer que l'Ukraine remporte la victoire et que la Russie ne l'emporte pas, c'est un soutien continu.
Les dirigeants du G7 ont accepté le plan de M. Biden de prêter 50 milliards de dollars à l'Ukraine provenant de 280 milliards de dollars d'actifs russes gelés. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Les ministres des Finances sont en train d'examiner les détails, par exemple les mesures de soutien nécessaires, et les clarifier dès que possible.
Le président Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant et a exprimé son inquiétude sur l'entrée de son pays au sein de l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
La question de l'OTAN est couverte. Il stipule que l'Amérique soutient l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN et reconnaît que l'accord de sécurité est un pont vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
La guerre à Gaza a été également au centre de l'attention. Y aura-t-il bientôt un cessez-le-feu à Gaza? Joe Biden est sceptique.
The biggest hang-up so far.
Le plus grand obstacle jusqu'à présent est le refus de Hamas de signer, même s'il a soumis quelque chose de similaire. Il reste à voir si le projet aboutira. Nous allons continuer à faire pression.
Cherchant à endiguer la vague de migrants africains qui arrivent en Europe via l'Italie, la première ministre italienne Giorgia Meloni, hôte du sommet, a fait de l'investissement en Afrique des thèmes majeurs de sa présidence du G7. La première ministre italienne, Giorgia Meloni.
L'Italie a mis au centre de sa présidence la question des migrations et le rôle de plus en plus inquiétant que jouent les organisations de trafiquants qui exploitent évidemment le désespoir.
L'action de Meloni en faveur de l'Afrique s'inscrit dans le cadre du partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondial du G7. L'objectif est de mobiliser 600 milliards de dollars de financement privé pour les infrastructures d'ici 2027 comme alternative à l'initiative chinoise dite « la ceinture et la route ». Les réunions se sont poursuivies ce vendredi sur la Chine dans le commerce mondial et une session sur l'éthique de l'intelligence artificielle avec la participation surprise de François, une première pour un pape à une réunion du G7.
L'avion spatial VSS Unity de Virgin Galactic a effectué le 8 juin sa 12e et dernière mission, transportant un chercheur et 3 astronautes touristes. Les passagers ont profité d'une vue spectaculaire sur la Terre et de 3 minutes d'apesanteur. Les précisions de Nathalie Barge.
C'était le 2e vol cette année de l'entreprise spatiale fondée par le magnat britannique Richard Branson. Cette mission a marqué le dernier vol d'Unity alors que Virgin Galactic développe ses avions spatiaux Delta plus performants. Lors d'une conférence de presse après le vol, le président de Spaceline, Mike Moses, a célébré les réalisations d'Unity tout en annonçant une nouvelle flotte, le vaisseau spatial de 4e génération actuellement en production.
Le prochain chapitre est en réalité encore plus révolutionnaire. Notre flotte de vaisseaux spatiaux Delta est conçue pour voler presque 8 fois plus vite. Donc ce sera 2 vols par semaine. Nous serons opérationnels en 2026 avec 2 vaisseaux spatiaux et notre vaisseau mère Eve. Cela représente 750 astronautes par an dans l'espace. C'est plus que ce qui a été envoyé dans l'espace au cours de 60 années d'histoire des vols spatiaux.
Un nouveau chapitre pour les efforts d'exploration spatiale de Virgin Galactic qui promet ainsi d'augmenter considérablement la fréquence et l'accessibilité des voyages spatiaux. La mission Galactic 7, qui a décollé de Spaceport America au Nouveau-Mexique, a transporté des passagers turcs, américains et italiens à environ 80 km d'altitude lors d'un vol d'un peu plus d'une heure. Le jeune astronaute turc Tuva Atasever a emmené dans l'espace des drapeaux de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, pays d'origine de sa mère.
C'était un voyage tellement intense. Le premier choc a été la libération. Et nous y sommes restés que pendant une brève seconde, ce qui nous a semblé plus long. Nous flottions simplement. Mais juste après, le moteur a démarré et ma parole, cette puissance sur ce vaisseau était probablement l'aspect le plus impressionnant du vol.
Cette expérience ont été menées lors de la mission, a précisé l'astronaute en chef d'Axiom Space, Michel Lopez Alegria.
While Tuva was
Tuva a été sans doute la charge utile la plus importante pour nous dans cette mission. Nous avons mené cette expérience, dont 3 étaient des reports d'Axe 3, la mission Axiom qui a eu lieu plus tôt cette année. Nous avons également mené une expérience qui impliquait un stylo à insuline avec l'idée que nous serions capables de prouver, avec précision je suppose, en microgravité, que nous pouvons administrer une dose d'insuline pour des futures applications dans les vols spatiaux.
Galactic 7 a également transporté 2 charges utiles autonomes montées en rack soutenues par le programme Flight Opportunities de la NASA pour étudier le glissement du propulseur des engins spatiaux et une expérience de l'Université de Californie pour tester une nouvelle technologie d'impression 3D en microgravité. Ce vol marquait la 7e mission de recherche de Virgin Galactic.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonic, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tout dont RM Show, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au +1 703 350 37 31.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube. la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.